la langue bien pendue, bon sang. Nous reprenons numéro 17.
Nous ne sommes qu'au numéro 2 de notre série de cette semaine, l'opéra s'amuse, le 19e siècle, le siècle d'Offenbach.
Des opéras. Combien en ai-je écrit, des opéras? En voyons, 120, 123, 125, je ne sais plus, non. Je n'arrive jamais à faire le compte.
Offenbach avait renoncé à compter ses trophées et pareillement avant lui, Daniel, François, Esprit, Aubert, son grand prédécesseur, dont la gypsière était moins pleine. Opéra, opéra comique, pour l'un et l'autre, autant diviser l'océan par une ligne imaginaire. En réalité, c'était les autorités qui, pour une bonne part, imposaient la différenciation. Pour le pouvoir, les scènes constituaient en effet un danger. La muette de Portici d'Aubert n'avait-elle pas été le signal de la révolution et de l'indépendance belge en 1830? Contre l'incendie politique, il fallait des réglementations. Les inspecteurs des théâtres s'appliquaient donc à ranger les spectacles par genre, mais ils ne voyaient pas que les auteurs contournaient leurs interdits. Du jeune Offenbach, ils avaient accepté au début des bouffonneries, et peu à peu, il produisit des opérettes avant de pousser les feux jusqu'à l'opéra comique et jusqu'à l'opéra, vanité des classements. Michelet, en revanche, disait que c'était le peuple entier qu'il fallait réunir, sans barrière. « Nous nous connaissons si peu », regrettait-il. Mais au souci du classement des gouvernements, les groupes dominants ajoutaient, eux, une recherche de distinction sociale. Là où le mouvement des Orphéons rêvait de faire jouer la grande musique par des amateurs, sous les kiosques, à équidistance de tous, les mélomanes affichaient leur savoir dans leur salon où ils pratiquaient la musique à leur façon. C'est ainsi que le siècle qui avait commencé dans les guinguettes et les goguettes autour des chansons de Béranger finit avec l'apothéose du Palais Garnier, temple du grand genre. Offenbach, dans ce long processus de sécession sociale par la musique, c'est la proclamation de l'indistinction.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec nos deux guides de la semaine, dans les duos, il y a toujours Jean-Claude Dion. Bonjour.
Bonjour.
Professeur à l'université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, etc., etc. Le sérieux, c'est vous?
Ben, je crains.
Et votre compère?
Ah, mon compère, c'est un magnifique clown.
Ah, Philippe Gimplowitz, bonjour.
Oui, ben bonjour. Bonjour, n'importe comment, je ne peux être que clown dans la circonstance.
Mais il y a aussi un mot que vous aimez bien, les chevaux légers.
Oui, je vais essayer d'être le cheveu léger de l'émission.
Faites attention parce que les cheveux légers au 19e siècle, c'était souvent des gens de droite, hein.
Ça me colle au basque un petit peu.
Ouais, ouais, bon. Alors, on va commencer en parlant politique, justement. Parce que tout est affaire de réglementation. Nous sommes, Jean-Claude Dion, au début du 19e siècle.
Alors, en 1814, c'est le retour des Bourbons et on entre dans une période de monarchie constitutionnelle avec, on le sait, deux régimes, la Restauration jusqu'en 1830 et puis ensuite l'avènement de Louis-Philippe, roi des Français. Mais en fait, d'un point de vue théâtre qui nous occupe, tout s'est passé sous le Premier Empire. C'est Napoléon qui, en 1806-1807, a rétabli ce qu'on appelait le système du privilège, et donc a vraiment restreint considérablement l'offre théâtrale. Mais notre cher opéra comique a réussi à sauver sa peau, puisqu'il fait partie des quatre théâtres officiels et qui est, à côté de l'opéra, la deuxième scène officielle. Et donc, il va être, au fil du siècle, une institution impériale, royale, nationale, selon les types de régime.
J'ai parlé de Béranger, Philippe Gimplowitz. On a dit que cette époque, d'après 1815, c'était l'époque de la gloire de Béranger que chantaient des gens de toute classe sociale. Quand même, l'étau napoléonien s'était desserré peu ou prou avec la monarchie constitutionnelle. Il y avait des goguettes où on jouait des instruments, des guinguettes où on chantait des chansons,
oui,
c'est ça?
Oui, il y a beaucoup d'endroits où l'on va chanter et où l'on va jouer, parce qu'il y a un reste de la Révolution. Le reste de la Révolution, c'est le populaire qui est arrivé sur la scène publique. Donc c'est ce populaire qu'on va retrouver au bord de Marne ou dans des petits, dans des caveaux. Et puis, évidemment, il y aura le mouvement orphéonique qui apparaît en 1819, porté sur les fonts baptismaux par des gentilshommes, des philanthropes, des gentilshommes libéraux qui considéraient que la Révolution, plutôt que d'avoir apporté trop de lumière, n'en avait pas apporté assez et qu'il fallait continuer le mouvement.
Vous parlez d'exotisme de proximité quant aux thèmes qui sont abordés.
Oui, alors l'Europe semble secouée dès la fin du XVIIIe, et ça va s'amplifier au XIXe, par un envie d'ailleurs. D'un côté, il y a un classicisme d'école, il y a un académisme qui vole en éclats, il y a un corset de conventions, et puis on découvre l'Écosse. Déjà Haydn, déjà Beethoven, déjà Pleyel, énormément joué des morceaux écossais. On découvre l'Italie. Berlioz, Les Abruzzes avec Harold en Italie, Prosper Mérimée, S'enflamme pour l'Espagne. Il y a le mythe de la Scandinavie aussi très important avec les légendes scandinaves. On a envie de retourner à une espèce d'origine qui serait une origine de simplicité, de légèreté, et c'est cette origine qui va servir l'opéra comique.
Comme vous êtes, siècle. Vous pourriez l'habiller d'un kilt, j'aimerais qu'on s'attarde. Ah bah l'Écosse.
Le kilt, effectivement, et le tartan, tout ce folklore si typique, c'est en grande partie Walter Scott qui l'impose. Et Walter Scott, on l'a oublié, est vraiment une star internationale extraordinaire au début du 19e siècle. Lorsqu'il vient à Paris en 1926, il est vraiment accueilli comme une rockstar.
Voyons, les enfants, dites-lui ce qu'il y a là à 7h15.
Il va Noël !
Si je comprends bien, il nous faut encore patienter 3 minutes.
Oh, ben chante-nous, il va Noël, genre.
Ah oui, il va Noël. Il va Noël.
Chaque fois, c'est la même chose, vous voyez. Ils arrivent en avance, alors...
Bon, allons-y, hein? Vous voulez bien, les enfants.
Ah oui,
bien,
oui.
Allons-y.
Il va Noël.
On a bien sûr reconnu Georges Guettari, grande vedette de l'histoire de l'opérette, mais dans la seconde moitié du XXe siècle. Et puis donc Ivan Noé, 1819, d'ailleurs l'année de naissance d'Offenbach, immédiatement traduit en français, et qui va être mis à toutes les sauces musicales, théâtrales, etc. Et qu'on va retrouver, comme tout le répertoire de Walter Scott, adapté à l'opéra comique, puisque l'opéra comique va toujours là où il y a la mode, et c'est ensuite diffusé tous ces thèmes.
Alors il y a la Dame du Lac chez Walter Scott, il y a aussi Guy Mannering, et bon, ça se passe en Écosse, dans les Highlands, ou un peu plus bas, avec toujours les mêmes personnages, le chevalier, la dame qui attend.
Avec une pointe de fantastique, hein, et c'est là qu'on voit que on peut pas opposer opéra comique et romantisme, parce que on voit le romantisme aussi, pas simplement chez des gens comme Berlioz, mais aussi dans le portrait de l'opéra comique, avec cette dame blanche qui est un fantôme en fait, et qui illustre ces châteaux hantés de l'Écosse.
Boieldieu, en 1825, compose donc à partir de l'imaginaire écossais.
Alors Boieldieu, il est à la fin de sa carrière, il mourra quelques années après, mais la Dame Blanche, 1825, décembre 1825 à l'Opéra Comique, c'est vraiment l'apogée de sa carrière, et il a surtout, grâce à lui, avec lui, un magnifique librettiste, Eugène Scribe.
Mireille Delinche interprète la Dame Blanche. Je sais que l'articulation, c'est fondamental dans l'Opéra Comique. Je dis quand même ce qu'elle va chanter si bien. Vous voyez ce beau domaine dont les créneaux touchent le ciel, une invisible châtelaine veille sur ce castel.
Châtelaine, veillons tout en sur ce castel.
Oui, c'est Jean-Paul Fouché-Court, le ténor. Ah oui, alors la Dame Blanche, c'est l'histoire d'une usurpation reconquise. Il y avait des terres qui appartenaient à un seigneur légitime. La Révolution l'en a chassé et l'héritier... du cœur, le vrai héritier se présente. Il est masqué, évidemment, parce qu'il va y avoir des tas de retournements. Et finalement, les paysans le reconnaissent comme le vrai seigneur. Et ça correspond, alors c'est très intéressant, parce que 1925, ça correspond à une loi, je vais faire le sérieux là, à une loi récemment promue par Charles X, qui vise à dédommager les propriétaires privés de leurs biens spoliés par la Révolution. Le regard paysan reconnaît le vrai seigneur par-delà l'usurpateur qui était un fermier qui s'était emparé par la Révolution de terres indues.
Oui, ce dont tu parles, Philippe, c'est la fameuse loi du milliard des immigrés qui d'ailleurs n'a jamais vraiment été appliquée. Mais on voit comment l'opéra comique peut vraiment être ancré sur une actualité politique. D'ailleurs, l'œuvre est dédicacée à la duchesse de Berry. Mais l'œuvre va avoir un succès absolument extraordinaire, y compris au XXe siècle. Et si vous lisez Tintin, le crabe aux pinces d'or, vous verrez que lorsqu'on saoule Tintin et lorsqu'il est ivre, qu'est-ce qu'il chante? Et exactement l'extrait qu'on vient entendre, la Dame Blanche vous regarde.
Et c'est pas dans l'île noire, mais vous nous parliez de scribe. Le dit scribe, on le retrouve auprès de Désiré, François, Esprit.
Alors scribe, c'est le grand librettiste de l'opéra. Il lit plein de choses parce que c'est un personnage extraordinaire, mais c'est notamment le grand librettiste de l'opéra comique au XIXe siècle. 94 livrets d'opéra comique et dont 28 avec Aubert. Et effectivement, ce duo Aubert et scribe, qui est à l'œuvre des années 1820 jusqu'aux années 1850, a vraiment complètement marqué et façonné le genre avec des œuvres qui ont un succès mondial. S'il fallait en citer une, Fra Diavolo, simplement.
Et en 1830?
L'année 1830, c'est bien sûr la Révolution, c'est bien sûr la bataille d'Hernani ou la Symphonie fantastique, mais c'est aussi la création de Fra Diavolo, et puis d'ailleurs Scribe, qui écrivait beaucoup de pièces, je crois, a écrit une autre pièce cette année-là.
Oui, alors c'est ça. Bah, et oui, écoute, c'est Zoé, c'est la chatte à Jean-Claude.
Et oui, c'est une pièce créée en mars 1830.
Oui, il a fallu que parmi toutes les pièces écrites par Scribe, Jean-Claude aille à la recherche du bon nom, du juste nom qu'il aura donné à sa chatte.
On peut pas appeler un chat Diavolo. Diavolo, c'est un brigand napolitain.
C'est un vrai brigand qui a réellement existé. Et donc là, on joue avec cet exotisme de proximité. On joue avec aussi une certaine peur, parce qu'on a peur à certains moments dans la pièce. Enfin, tout se termine bien. Le brigand est arrêté, puisque l'opéra comique généralement quand même est assez moral. Et là encore, c'est une œuvre qui va avoir un succès planétaire.
Et comme on est un peu avant la Révolution de 1830, encore sous le règne de Charles X. On rappelle que le brigand luttait contre les milices de l'occupation de Napoléon dans le royaume de Naples. Et puis on chante les vertus des carabiniers qui, après avoir festoyé dans l'auberge, assurent en principe l'ordre et la sécurité.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Nous parlons de l'histoire de l'opérette au XIXe siècle. Nous en étions avec nos hôtes, nos guides de la semaine, Jean-Claude Dion et Philippe Quimplevitz à Fra Diavolo en 1830. Et je voudrais que ce soyez un peu plus sérieux, Jean-Claude Dion. C'est une version très noble de John Eliot Gardiner. d'une œuvre qui n'est pas Fra Diavolo qu'on vient d'entendre.
Alors effectivement, c'est pas les carabiniers d'Aubert et Scribe qu'on a entendu, c'est ceux d'Offenbach, parce que l'opéra comique, on l'a dit, était devenu un genre officiel. Il a eu un petit peu tendance à s'embourgeoiser. Il a même, au début de du Second Empire, il tend à lorgner un peu vers le grand opéra avec des œuvres comme l'Étoile du Nord, etc. Et donc finalement, il y a la place pour vraiment le véritable opéra comique, pour un théâtre musical de divertissement. Il y a la place et il y a beaucoup de musiciens d'ailleurs qui ont envie de prendre ce créneau, si je peux parler de façon un peu commerciale, sauf qu'il y a ce système du privilège dont on a parlé et de ses ambitions et de cette contrainte va naître un nouveau genre, l'opérette.
Oui, mais le système, il est renforcé sous l'Empire autoritaire après le coup d'État de Napoléon III.
Oui, et il va falloir des trésors d'imagination et puis aussi quelques appuis au placé, aux deux musiciens qui vont tenter justement d'introduire une nouvelle forme de théâtre musical dans ce paysage un peu cadenassé. Je pense à Hervé, d'une part, qui est le vrai créateur de l'opérette. Mais Hervé, il avait beaucoup de talent, mais il a eu le malheur d'avoir à côté de lui quelqu'un qui avait du génie, qui était Offenbach. Et c'est vraiment Offenbach qui va, en créant le Théâtre des Bouffes parisiens en 1855, lancer le genre.
Dans le duo Hervé-Offenbach, le Toquet...
Le compositeur Toquet, c'était hein, le surnom de
Le Toquet, c'est Hervé.
Ça me revient. Oui, mais je vais parler du privilège. Je vais parler du privilège et de l'ingéniosité du génie Offenbach. Effectivement, le privilège, c'est ce que dit le privilège remis sur le boisseau à ce moment-là, c'est qu'il est interdit de donner des pièces à plus de trois personnages chantants. Donc, Offenbach va se débrouiller d'abord pour donner jusqu'en, je crois... Alors là, je parle sous le contrôle du sérieux Jean-Claude, 1855, je crois, non ?
Alors, en fait, il démarre en 55, oui. Avec effectivement des pièces à deux ou trois personnages. Il arrive à quatre personnages avec Bataclan, hein, qui est la pièce d'ouverture de
Bataclan,
la...
Bataclan, c'est une œuvre d'Offenbach.
Voilà.
Et une chinoiserie.
Une chinoiserie musicale.
D'où la façade du Bataclan.
Exactement. Et donc, ça va être une longue conquête jusqu'à Orphée aux Enfers, pour élargir le privilège, enfin c'est ce dont parlait à un instant Philippe, avec vraiment des étapes très amusantes, puisque lorsqu'il veut passer de 4 à 5 personnages, il compose une œuvre qui s'appelle Croquefer ou Le Dernier des Paladins, donc là aussi c'est toute la parodie du Moyen-Âge romantique, et il imagine un personnage de chevalier incomplet, Mousse à mort, qui effectivement... ne peut que grogner parce qu'on lui a coupé la langue aux croisades et montre ses répliques sur des écriteaux, ce qui est la reprise du procédé qu'on connaît au théâtre de la foire.
Donc le chevalier démonté, ça fait un personnage de plus, c'est ça?
Bah ça fait, je sais pas s'il faut dire 4 ou 4,5 ou 5.
Et ça se passe où tout ça physiquement?
Ça se passe dans le théâtre qu'Offenbach a créé, qui s'appelle Les Bouffes Parisiens. Ce nom est une allusion au théâtre italien et Les Bouffes, parce qu'il voulait en même temps en faire le théâtre le plus chic de Paris. Et avec un culot extraordinaire, il part de rien et il impose ce nouveau genre qu'on appelle l'opérette, puisqu'on l'a bien compris. Au départ, l'opérette, c'est un petit opéra.
Oui, oui. Et il l'installe aux Champs-Élysées, devant le Palais de l'Industrie. Ce qui
d'abord,
veut dire que...
puis oui. L'hiver aux Bouffes Parisiens, c'est ça?
En fait, c'est le même théâtre, mais au départ, il utilise cette formidable opportunité qui est l'exposition universelle pour se mettre juste en face de l'exposition et pour capter tout le public. Et
sauf qu'à l'époque, Champs-Élysées,
voilà,
l'été.
Sauf qu'à l'époque, les Champs-Élysées, lorsque l'automne arrive, c'est boueux, c'est vraiment déjà à la périphérie de Paris, et donc il doit trouver une salle plus centrale, et c'est la salle qu'on connaît encore actuellement au passage Choiseul.
Et qu'il refait de fond en comble.
Oui.
Mais vous parliez d'Orphée. Alors là, on est arrivé, Offenbach ayant monté l'échelle subrepticement, degré par degré, en 1858. Orphée. Et le cœur de l'opinion publique.
Alors, le cœur de l'opinion publique, alors bon, le génie d'Offenbach, il est multiple, je dirais qu'il est musical. C'est le génie de l'emmerdeur aussi, de la personne qui veut obtenir le maximum de ses librettistes, le maximum d'effets, qui demande situation sur situation et qui a le sens de la satire sociale. C'est-à-dire que ce qu'il ajoute à l'opéra comique et à l'opéra bouffe, c'est le sens de la satire sociale, le clin d'œil vis-à-vis de la salle, le fait de parler... Alors, 1858, l'opinion publique. Qu'est-ce que c'est que l'opinion publique? C'est cet état de fait qui contraint n'importe quelle personne à obéir aux convenances. Donc à l'époux d'être fidèle, à l'épouse de suivre la bonne voie, à l'homme politique de dissimuler ses agissements. Et Offenbach, c'est son premier coup de génie, parce que ça ouvre Orphée aux Enfers, fait de l'opéra comique un personnage qui s'adresse au public, hein, qui invective et qui parle un peu comme une stand-up comédie d'aujourd'hui, qui présente que, voilà, je suis la renaissance du cœur antique. Autrefois, le cœur antique rendait les gens intelligents. Et moi, opinion publique, je fais en sorte de les amener là où je le souhaite.
On a, comme vous le souhaitiez, Philippe Gimplovitch, choisi une version parlée, celle de René Leibovitz dans les années 1950.
Qui je suis ? Du théâtre antique, j'ai perfectionné le cœur. Je suis l'opinion publique, un personnage symbolique, ce qu'on appelle un raisonneur. Le cœur antique, en confidence, se chargeait d'expliquer aux gens ce qu'ils avaient compris d'avance quand ils étaient intelligents. Moi, je fais mieux. J'agis moi-même. Et prenant part à l'action, de la palme ou de l'anathème, je fais la distribution.
Je suis monsieur Chambard, du service des théâtres de la préfecture.
Enchanté, monsieur.
Vous avez une licence ?
Pas encore, je ferai le nécessaire.
Je dois vous prévenir que ça risque d'être long. 8 mois, 1 an, quelquefois plus.
Basse.
Vous êtes français ?
Je suis de Cologne.
Ah, il faudra en outre faire une enquête. Votre licence, vous l'aurez peut-être, mais pas avant 2 ans.
C'est une plaisanterie ?
Le règlement, monsieur, n'est jamais une plaisanterie. Duralex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi.
Mais, monsieur, vous vous exprimez en latin ? Vous êtes donc un lettré ?
J'ai fait mes humanités.
C'est le ciel qui vous envoie, car nous sommes désespérés. Nous cherchons des auteurs que nous n'en trouvons pas, n'est-ce pas ?
Et non. Il y en a quelques-uns, tout de même.
Oui, bien sûr, mais sans esprit, sans culture. Avouez que vous avez écrit des pièces de théâtre.
Hélas, j'aurais peut-être dû.
Il n'est pas trop tard, qu'attendez-vous ?
Vous faites vibrer ma corde sensible. Votre licence, vous l'aurez cette semaine. Messieurs. Ah, un dernier détail. Madame Lacasse vous a sûrement prévenu. Votre salle a été classée dans la catégorie numéro 3. Vous ne pourrez jouer ici que des pièces à 3 personnages. Messieurs.
C'est, on l'aura reconnu, Serrault, qui essaye d'imiter l'accent de Fenbach.
Désolé de faire le rabat-joie, Michel Serrault est absolument extraordinaire dans ce rôle, et cette série qui repasse souvent à Noël est une merveille pour lui, mais c'est faux de A à Z, il n'y a pas de licence, il n'y a pas de série catégorie numéro 3, enfin, tout est faux. Par contre, ce qui est vrai...
On peut prendre des libertés avec la licence.
Ah oui, on peut prendre des licences avec la licence, c'est sûr. Et effectivement, ce qui est vrai, ce qu'on sent bien dans cet extrait, c'est la capacité de séduction incroyable d'Offenbach, là, qui met dans sa poche ce pauvre fonctionnaire. D'ailleurs, il est allé chercher son principal librettiste, Ludovic Alivi, dans un ministère, donc en fait, on retrouve une forme de vérité, mais on voit très bien à travers... Le talent de Serrault, ce personnage extraordinaire qui a réussi à s'imposer comme une figure de la vie parisienne et qui a fait de son genre, donc l'opérette, même si pour ses grandes œuvres il appelle ça plutôt des opéras bouffes, c'est plus valorisant, qui a fait de son genre le genre à la mode et le reflet même de l'esprit de Paris et de la vie parisienne, pour citer une de ses principales œuvres.
Moi j'ai surtout entendu l'accent.
Oui, parce qu'en fait, Offenbach, c'est un petit juif allemand qui vient de Cologne, qui débarque sans un sou en 1833 à Paris. D'ailleurs, l'ascension va être très longue. Hein. Il va mettre 20 ans à véritablement s'imposer, puisqu'on l'a dit, les bouffes parisiens ouvrent en 1855. Et c'est quand même aussi un cas extraordinaire d'assimilation, d'intégration, de quelqu'un qui va garder sa culture juive, sa culture allemande, et qui va assimiler tout l'opéra comique, Auber, Scribe, et qui va faire de ça quelque chose de complètement unique.
Mais vous dites... Il le fait volontairement, l'accent, il le contrefait presque. Pas son intérêt, il est traité au mieux d'Alsacien et plus souvent de juif.
Parce qu'en 1870, ça va être difficile pour lui.
Alors ça sera un peu compliqué en 70 lorsque sa patrie d'origine et sa patrie d'adoption seront en guerre. Mais en fait, ça pose pas de problème avant, et j'ai toujours pensé qu'il avait effectivement gardé son accent pour créer son personnage, comme ses favoris, son binocle. Enfin, Offenbach, c'est tout de suite un musicien qui a un visage, et un visage qui s'exporte d'ailleurs dans le monde entier, puisqu'il arrive à un moment où les moyens de communication font que sa musique est aussi bien jouée au Brésil qu'en Australie, qu'en Scandinavie, que partout. C'est peut-être d'ailleurs la première star de la musique mondiale.
Il réalise un idéal que les musiciens ont aujourd'hui, c'est d'être une marque.
Oui, à lui seul. D'ailleurs, il a créé une société qui s'appelait Offenbach et compagnie, qui gère un de ses théâtres, et voilà, c'est vraiment lui le leader de cette marque.
Au biographe qu'est Jean-Claude Dion, immense livre chez Gallimard consacré à Offenbach, le personnage de Michel Serrault agrée, et puis peut-être ici, celui-ci.
Mon Dieu, que les hommes sont bêtes.
Oh, quelle idée pour une chanson. Écoute plutôt.
Mon Dieu, que les hommes sont bêtes.
Chante avec moi, ça n'est pas la conviction qui te manquera.
Mon Dieu, que les hommes sont bêtes. Que les hommes sont bêtes. Que les hommes sont bêtes.
Nous pouvons le répéter plusieurs fois. C'est une chose que nous ne dirons jamais. Ça serait...
Mon Dieu.
Ici, nous allons mettre un A pour te permettre de soupirer.
Mon Dieu. Que les hommes sont bêtes, sont bêtes.
Maintenant, un petit couplet sans importance. L'important, c'est le refrain. Supposons que ce soit ton bel ami qui parle. Voici à peu près ce qu'il te dirait.
Je ne suis pas d'humeur jalouse. Tu peux mentir, j'adore ça. Tu m'as tombé, moi je t'épouse. Pardon, Bouchi, vite avec ya.
Pardon, Bouchi, vite avec ya. Tout cela me tourne la tête. C'est en faisant mal qu'on fait bien. J'avoue, j'avoue, que je n'y comprends rien. Rien, rien, sauf ceci.
Mon Dieu, que les hommes sont bêtes. Que les hommes sont bêtes. Que les hommes sont bêtes.
Autre incarnation à l'écran d'Offenbach, Pierre Fresnay, lui aussi extraordinaire dans ce rôle, dans le film La Valse de Paris de Marcel Achard, qui date de 1950.
Et vous ne dites rien d'Yvonne Printemps ?
Non, parce que je trouve que dans Hortense Schneider, elle est beaucoup moins intéressante que Fresnay, qui est un merveilleux Offenbach. Et là encore, je le précise pour nos auditeurs, l'histoire est complètement fausse, mais très amusante.
Hortense Schneider et Offenbach, non ?
Ah non, rien.
Ah bon.
Elle a eu quand même tous les souverains l'année précédente, en 1867, lors de la Grande Duchesse, donc ça vous rend un peu difficile.
Oui, on peut le croire, là, si Jean-Claude Dion le dit, c'est que...
J'étais dans la chambre.
C'est que c'est vrai, il sait tout, oui, oui. Donc je voudrais revenir sur Orphée aux Enfers, parce que le coup de génie d'Offenbach, c'est une révolution copernicienne. Jusqu'alors, l'opéra, c'est le genre noble. Le genre noble, ça veut dire des héros, des rois ou des dieux en proie à des conflits tragiques, entre un sens du devoir exacerbé et une passion incandescente. Et ce que nous montre Offenbach dans Orphée aux Enfers, ce sont des dieux devenus peuple, des dieux devenus des petits bourgeois un peu replets, avec leurs petits égoïsmes, etc. Et si on oppose Offenbach à Wagner et la tétralogie, Lord Durin qui commence dans la tétralogie, au commencement était la pureté et puis la corruption va venir après, chez Offenbach, la corruption est au commencement et avec un regard très bienveillant et très indulgent sur la... sur la corruption.
D'ailleurs, cher Philippe, pour te faire plaisir, je te rappelle que Orphée est directeur de l'Orphéon de Thèbes dans la pièce d'Offenbach.
Mais de toute façon, Offenbach et Wagner, ce sont deux phases d'un même idéal de rénovation de la musique, dit Jean-Claude Dion. Il faut une conclusion sérieuse. Et puis une autre pour vous, Philippe Gnaplowitz. Le Nôtre a ouvert un concours pour préparer un nouveau gâteau qui ferait pendant au gâteau opéra, qui s'appellera Opéra Comique, et ce gâteau aura la forme d'un saint, non pas celui d'Hortense Schneider, ni celui de la Pompadour, peut-être celui de Marianne, parce qu'on parlera bientôt dans une autre émission de l'opérette sous la Troisième République, alors que l'ombre d'Offenbach s'effacera très très lentement, peu à peu. Merci à vous deux, c'était le deuxième épisode de cette Opéra s'amuse. Nous serons demain en Europe, à Vienne, où Offenbach a rendu visite aux musiciens. L'émission était préparée par Martin Cellier, avec à la technique Fabrice Desmaz, et à la réalisation Stéphane Ronxin.